Les punks parisiens sont très contraints par l'espace. Les punks à chiens auvergnats peuvent avoir au moins 3 ou 4 chiens.
D'où la start-up qu'on a vue sur la route là, qui propose des laisses à 3, 5, 7 entrées.
Non, ça c'est l'autre côté de la subversion clermontoise, qui est plutôt sadomasochiste. Mais on n'en parle pas, celle-là tu la vois à la surface. Clermont, on est plutôt sur des gens qui ont l'air d'étrangers, foncier pas cher, on s'installe à 30 ans, on fait des enfants. Mais vu qu'on a un emprunt à la banque, on achète des laisses. Des laisses à 3 euros. C'est un. Subversion sexuelle.
Comme dit, alors on est dans une émission, c'est où c'est que ça punk dans le Puy-de-Dôme.
Ouais.
Et on voit que t'es un Californien parce que t'as un t-shirt marqué La Californie, ouais, c'est mon ami.
Je suis un fucking Californien. Ouais. Et... les gens se placent derrière.
C'est bien, ça leur en fait
plaisir. Parce que le nom, c'est moins intéressant.
Une arche de Noailles, ah, trop bien, la Californie française.
Ouais, parce que Californie française, c'est la marque de fringues qui est un peu militant. Et donc, et les camarades de la Nars de Nouvial ont fait faire les t-shirts par cette entreprise locale. Quoi.
Ok, alors on était là en train de chercher en quoi Clermont, on était sur la ville un peu, parce qu'on avait envie de quitter, voilà, le truc de campagne, enfin, il y a trop de trucs de campagne dans ces trucs de l'eau, on voulait un peu parler de la ville, et en quoi Clermont est un barycentre quelque part sur ce territoire national, et en quoi Clermont est une ville de subversion.
Eh ben, c'est ballot parce qu'on avait notre adjoint au maire de Clermont qui est là, et il aurait pu répondre à ça, il est lui-même très subversif. C'est un ancien de Greenpeace et qui s'est associé aux socialistes pour gouverner la métropole. Et donc ici, les gens snobent un peu les politiques comme ça. Moi, je suis bien copain avec lui, mais c'est juste une relation personnelle, quoi, tu vois. Et il nous soutient sur les bassines. Il a fait, on a fait un texte, on a travaillé ensemble sur un texte qu'il a été ensuite porté à l'Assemblée métropolitaine. Ils ont dit on veut demander un moratoire sur les bassines en Limagne, parce que en fait c'est off ça ce que je vais dire, ils ont peur de plus avoir à boire, donc c'est normal qu'ils se préoccupent de ça, quoi. Mais lui-même il est vraiment écolo, mais en politique ben, il faut qu'il fasse les alliances qu'ils font, quoi. Mais voilà, ça c'est l'aspect subversion soft. Et puis autrement, la subversion un peu plus hard, à Clermont, c'est un peu... je dirais qu'il y a un milieu anard. Milieu anard qui, par définition, est assez... confidentiel. confidentiel, on ne les voit pas trop parce qu'on n'est jamais assez radical pour les anards. Écoute, je pense qu'ils ne sont jamais représentés dans nos réunions. Une fois, ils sont venus, je les ai vus. Mais ils ne sont pas restés, ils sont vite tirés, on n'est pas assez subversif. Mais ce milieu anard, il existe. Je pourrais raconter des trucs là-dessus, mais ça serait trop long. Après, il faudrait que je fasse des montages. Et autrement, le meilleur du coin, bah, c'est nous, quoi, c'est BNM. C'est notre collectif BNM qui regroupe maintenant toutes les forces vives. Militantes, quoi. On a les gens d'Ixerre, ils sont venus. Ce qu'ils font d'intéressant, c'est dans BNM. Essentiellement. Hein. Essentiellement. Ils font d'autres choses aussi. Hein. Mais vraiment localement, quoi, c'est dans BNM. Après, qu'est-ce qu'on a? Greenpeace, ils sont venus avec nous, les militants de Greenpeace. Ouais, on fédère bien, quoi. On a bien regroupé toutes les forces vives autour des bassines. Et puis je suis venu avec une copine du lithium, je vais être à manger à côté d'elle, Audrey, parce que le lithium c'est une question d'eau aussi, tu vois. Et je l'ai invitée parce qu'elle fait une conférence gesticulée et tout. Et nous-mêmes on va former des gens qui sont aptes à faire des conférences gesticulées sur l'eau. Mmh. Puisque tu sais il y aurait les cartes aussi, tiens, tu vois, des trucs comme ça, arriver à trouver des moyens de parler aux gens qui ne sont pas militants comme nous, tu vois. L'habitant moyen, il ne sait pas ce que c'est qu'une bassine, il appelle ça un bassin. Il voit qu'il faut niquer les bassins, mais il ne sait pas trop pourquoi.
Pourquoi les militants féminisent tout? Pourquoi les bassins, on les appelle les bassines?
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, après tout. C'est une nana qui m'a sorti ça un jour. Ben, c'était à La Rochelle, en fait. Elle dit, nique les bassins, nique les bassins. C'était une nana qui descendait le cortège, c'est qui était à Rebrousse-Poil, une habitante qui se trouvait prise dans ce truc, qui ne savait rien du tout des bassines. Et puis les gens lui parlaient d'agro-industrie, ça ne lui disait rien, tu vois. Et puis elle a retenu bassin. Elle a retenu que c'était des bassins qu'il fallait les niquer. Et elle répétait ça en essayant de trouver un passage pour rentrer chez elle. Ça m'a fait rire depuis. J'ai retenu qu'on doit niquer les bassins. C'est notre façon de subvertir le monde capitaliste.
Oui, on pourrait trouver l'étymologie niquer, bassin. Mais bon. Bah, et alors, du coup,
C'est vrai.
Tu veux. Sur les bassines
j'arrive,
ou...
j'arrive à l'instant.
Ouais, mais ça n'empêche pas de.
Quand on arrive à Billon, on a envie de faire des tourbillons. Des tourbillons dans l'eau. Tourbillons au bal. Des tourbillons au bal, là, parce qu'on va aller baler quand même ce soir.
Ouais,
ici,
ouais.
Il y a le bal des Tabanards.
Ouais.
On va tourbillonner, ouais. Ah zut. Ah ouais. Ah merde, on fait de la radio alors qu'il y a du bal, non. Et du coup, vas-y, un lieu à Clermont-Ferrand où retourner la prochaine fois dans ces histoires de barricentes et de subversion.
Je dirais que il y a un lieu qui est un peu emblématique, ouais, des milieux alternatifs, c'est l'Hôtel des Villes.
Okay.
V-I-L-S, ou avec un O au féminin. Mmh. Qui est un ancien squat, enfin qui est toujours un squat d'ailleurs, c'est l'ancienne auberge de jeunesse qui a été squattée, et le squat a été un peu institutionnalisé, si tu veux, maintenant. Et ils ont une grosse activité sur l'hébergement des sans-papiers. Et il y a souvent des... Enfin nous on organise... Enfin nous, pas tellement BNM, mais si tu veux, quand on a des lieux, quand on cherche un lieu pour faire un petit truc, c'est pas très grand, mais pour faire une conférence gesticulée par exemple, un truc comme ça, ils nous accueillent volontiers. Ouais, j'aime bien l'Hôtel des Villes. Le mec qui gère ça depuis longtemps, c'est un gars que j'apprécie beaucoup, tu vois, sur son... C'est un gars de l'association des sans-logis, quoi, comment on appelle ça, les noms m'échappent, mais tu sais, cette association qui est nationale, qui a des antennes locales, pour les gens sans abri, quoi. Il a trouvé en plus de militer dans cette association qui est très institutionnalisée, il a un volet sans papier, les gens hors la loi, quoi, mais qui sont à la rue, les plus démunis, quoi. Et à côté de ça, ils accueillent des collectifs comme nous. C'est un peu un repère de ces fameux anards qu'on voit pas trop, mais qui se retrouve un peu là aussi. On a un autre lieu qui est un peu en perte de vitesse, mais pendant longtemps il a été un chouette lieu, c'était le Raymond Bar. Et en perte de vitesse, c'est pas de la faute des gens, c'est un quartier de la gare où ils sont en train de tout réaménager, comme l'Hôtel des Villes d'ailleurs. Mais l'Hôtel des Villes a survécu à Clermont. Si vous faites un reportage photo, allez le voir, c'est en face de la gare.
Okay.
Et vous verrez le quartier qui se transforme avec les hôtels modernes et tout. Mais en face, il y a une verrue. C'est une façade complètement taguée de façon artistique. Alors, une verrue du point de vue de l'urbanisme commercial, mais c'est un lieu qu'on aime bien, qui est chouette, qui a de la gueule, qui est un peu crâne, mais pas trop. Ouais, on se retrouve souvent là. Et autrement, c'est en train de devenir aussi un lieu important.
La Perme à Billon.
La Perme, ouais. La Perme, c'est culturel. Eux, ils sont très... ça appartient à la municipalité. Et la municipalité nous soutient, nous, dans la lutte anti-bassine. Ils sont de notre côté. Et ils ont une politique culturelle très... très cool, quoi. Donc ils entretiennent cet immense lieu, un peu tant bien que mal, quoi, avec leurs moyens, et ils mettent à disposition pour les assos. Et voilà pourquoi on est là ce soir. Mais vraiment, Billon, ils sont sympas.
Trop bien.
Pour la mairie. Ouais.
Trop bien, bah, merci à toi pour tous ces témoignages. Bah, il y a le bal qui chauffe là-bas. On va aller voir, ça a l'air fou.
Ouais, ouais, éclatez-vous dessous de la musique.
Bah bien, hein, c'est fou, hein. Faut aller, tant une oreille, tant un pied, laisse-toi faire, mais ils sont très bons pour faire danser tout le monde.
Ouais.
À bientôt dans le Puy-de-Dôme.
Un grand plaisir, revenez quand vous voulez, vous serez toujours les bienvenus. Comme nous, on est toujours les bienvenus dans l'Ouest.
Yes. Ouais.
Ok.
Si le Marais Poitevin est la Venise verte, Venise est sans doute le Poitou bleu.
La méga radio, ça continue, il est 22h38, là c'est le bal, les gens crient, mais on rencontre plein de gens, c'est trop bien. Et on est ici dans le Puy de Dôme, il y a des rivières qui coulent à travers ce département, qui vont vers d'autres départements. Et là, Audrey, toi tu viens de l'Allier, il y a des trucs un peu bizarres qui s'y passent.
Il y a des belles rivières aussi, des belles forêts, et là ils veulent faire une mine de lithium énorme, gigantesque. Pourquoi ? Pour la transition énergétique, qui n'a rien d'une transition d'ailleurs.
Carrément, on en entend parler un peu, c'est la grosse boîte Imerys là.
Ah oui.
Et ça fait combien de temps qu'ils ont ce projet et que vous êtes un peu mobilisé là-dessus ?
Nous on a appris ça fin 2022.
Okay.
Et ils n'avaient rien vraiment ficelé, mais ils disaient qu'ils allaient faire ça tout bien proprement. Voilà. Et du coup, on a créé une association qui s'appelle Stop Mine 03. Mais on est plusieurs associations à militer contre ce projet parce qu'il y a aussi Préservons la forêt des Colettes qui s'était battue contre l'implantation d'éoliennes industrielles dans la forêt, une superbe forêt. Mmh. Et ils ont gagné. Et quand il y a eu ce projet de mine qui est apparu, ils se sont réveillés, ils se sont mis au front. Il y a aussi Non au quai de chargement à Saint-Bonnet et il y a aussi une association à Montluçon, là où doit être l'usine de conversion.
Ok. Et dans tout ça, je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont dit que toi, tu es là ce soir et tout, mais que dans, je sais pas, de façon de te relier à lui, tu me raconteras un peu après, mais tu fais ce travail de transmission, quoi. Et je sais pas si tu veux nous raconter un peu pourquoi c'est ça qui t'a accroché, comment tu t'y prends, enfin un petit rapport sensible et en même temps pratique à cette aventure de transmission.
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un copain qui faisait pas partie d'ailleurs de Stop Mine 23, eux, ils ont gagné par rapport à l'ouverture d'une mine d'or en Creuse. Il s'était formé en conférence gesticulée et il a proposé à un groupe de créer sa conférence. Et du coup, je me suis dit que c'était une super opportunité pour avoir un outil plus ludique pour faire passer un peu d'informations par rapport à cette mine, parce que quelque part, bah, c'est le premier pas, notre premier objectif, c'est ça, c'est déjà d'informer. Qu'il n'y ait pas que le son de cloche d'Imerys ou des politiques qui font un modèle de vertu de cette mine qui... Enfin, une mine propre n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ça sera forcément trop consommateur en eau, en énergie et générateur de déchets en montagne. Et c'est le cas de le dire. Voilà, donc c'est super. Et si je suis là, c'est parce qu'un copain de BNM 63 m'a demandé de venir faire la conf ce soir.
Ok.
Voilà.
Et tu l'as déjà faite dans l'après-midi ?
Ouais, à 17h, voilà. Okay. C'était à 17h.
Et qu'est-ce que toi, ça t'apporte, ça, comme format ? Enfin, à toi, je sais pas, personnellement, le fait de se mettre en jeu, enfin, raconter des histoires, je sais pas, c'est une question comme ça, un peu sensible, un peu personnelle, mais...
Ouais, moi, je trouve ça chouette, je fais du clown en parallèle, et je suis plus à l'aise dans ce mode-là qu'un mode conférence très sérieux. Même s'il y a du sérieux dedans, d'apporter un peu de légèreté, je trouve ça plus enthousiasmant. Et du coup, la lutte depuis le départ, ça a été beaucoup de recherches et puis prendre dans la gueule toute la réalité du monde. Et c'était vraiment lourd et déprimant. Ça, c'est un des moyens de aussi le vivre un peu différemment, avec de la légèreté. Et il y a aussi toutes les rencontres qu'on peut faire, comme le Village de l'eau cet été, ou le Larzac l'année dernière, ou Bure, ou en fait, je vois qu'il y a beaucoup de joie dans cette lutte. C'est pas seulement être vénère ou je sais pas quoi, c'est jouer, prendre du plaisir, prendre soin de nous, s'organiser autrement. Je trouve ça super chouette. Voilà. Alors après la déprime, ça a été plutôt l'enthousiasme et l'ouverture à la joie. Et je pense que c'est important de le vivre comme ça.
Et il y avait une question, parce que nous, du coup, c'est la traversée des luttes de l'eau. Et là, on est avec Benem, hein, c'est les gigabassines dans le Puy-de-Dôme. L'Allier est pas loin, mais que finalement, ces mines, la mine d'Imerys, là, c'est pour chercher du lithium. Du coup, on creuse et on... C'est bien une mine et pas une carrière, hein, parce qu'on va transformer...
C'est une mine et on va défoncer toute la circulation d'eau. C'est comme un château d'eau, en fait, là où ils veulent faire ça. C'est vraiment le point culminant de notre coin, de notre environnement de vie. Et ils veulent mettre à la place des micro-fissures où l'eau peut s'écouler, se purifier et puis aller dans nos rivières par une sphère du diamètre de la tour Eiffel de béton et de résidus. Voilà ce que ça veut donner au bout du compte. Et après, bah oui, l'eau est au cœur de nos inquiétudes parce que bah, déjà, bon, cette année, ça va pas trop mal, mais ça faisait bien 4 ans que les agriculteurs y galéraient pour juste abreuver leurs bêtes, pour les nourrir parce que les champs, ils étaient cramés. Et on veut rajouter encore une quantité d'eau phénoménale, astronomique. Donc on nous promet que ça sera très peu d'eau, mais ça reste une quantité astronomique et les promesses ne sont que des promesses. Voilà, donc on a ça de commun, mais on a ça de commun aussi de lutter contre un monde qui nous mène droit dans le mur. Mmh. Et il est temps de dire stop, et on est de plus en plus nombreux à dire stop de partout, en France, dans le monde. Et ça apporte aussi de l'espoir.
Et est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce que tu sais, mais moi, parce que c'est un endroit qui m'est cher, mais de cette lutte au Portugal, sur le lithium aussi, quoi. Et de capter, parce que nous, on part tu vois, en Italie, des bassines, donc de comprendre que la lutte dans l'Allier, elle n'est pas que là. Enfin, il y a des mines partout.
Tout à fait.
Et tu parles, celle-là, juste, parce que tout à l'heure, on a discuté de la possible, je sais pas, comme une idée comme ça, mais la traversée des luttes des mines qui irait de Glomel à l'Allier au Portugal, en passant peut-être par l'Angleterre, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui se passe au Portugal?
Alors, ils luttent depuis plusieurs années contre l'implantation d'une mine. Mais du coup, là, c'est vraiment visible. Ça sera vraiment visible. C'est tous des villages qui seront défigurés par l'exploitation. Ils ont moins de tension par rapport à l'eau, mais ça reste catastrophique pour les gens qui vivent simplement avec l'élevage, un peu de culture. Voilà. Moi, j'y suis pas allée personnellement, mais trois copains de StopMine, copines, ils sont allés pour soutenir la lutte. Et en parallèle, donc ça, c'est leur fête, elle était aux alentours du 18 août. Et le jour du 18 août, il avait été lancé en amont l'idée de faire tous une action sur nos territoires. Mais ça s'est passé en Serbie, ça s'est passé en Amérique latine, ça s'est passé un peu partout. Donc filmer cette action et dans l'idée de faire un film qui visualise toutes ces luttes contre l'extractivisme. Et pourquoi pas, donc le lien est déjà là en tout cas. Et ton idée de faire une super marche pour rallier, je la trouve très chouette. On peut y réfléchir sérieusement.
Et peut-être juste pour finir, je me disais, est-ce que tu as, et je fais un clin d'œil peut-être, mais un conseil de lecture sur la question des mines, un livre, par exemple, d'une autrice qui s'est sortie récemment?
Alors, il y a Célia Izoard qui a écrit un superbe livre qui s'appelle « La ruée minière au XXIe siècle », à ne pas rater, je le conseille vivement.
En tout cas, nous, elle est venue par chez nous le présenter, là, dans l'Ouest, dans le Poitou, à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est vrai que Célia, elle arrive, elle est très fine dans sa compréhension des idéologies, des manières de communiquer de ces gens-là. Elle explique assez bien que cette mise en extraction pour la transition, et bah, en fait, elle ne remplace pas l'extraction ordinaire d'une modalité, elle surajoute, quoi. Et pourtant, on est pris, même nous, je sais pas, militants et tout, on peut être attrapé dans ces discours-là il faut bien creuser pour la transition. Et elle arrive à montrer comment c'est un discours qui est un peu rouleau compresseur et qui marche, mais que c'est toujours l'augmentation de...
Comme on peut dire, mais c'est bien, on va faire ici localement, on va faire ça de façon propre, plutôt que faire ça pourri ailleurs. Mais en fait, de toute façon, une mine propre, ça n'existe pas, je l'ai déjà dit. Et en plus, si on veut faire la transition énergétique, le lithium, c'est déjà un début. Mais il faut aussi du cobalt, du nickel, du manganèse, du graphite, du cuivre. Et tout ça, on va augmenter la tension, la pression qui est demandée aux autres pays pour produire encore plus. Il y a quelque chose qui est dit par rapport à ça, c'est qu'en 30 ans, dans les 30 prochaines années, il faudrait qu'on extrait autant de métaux qu'on a extrait depuis le début de l'Antiquité. Si, mais il y en a besoin pour l'automobile, mais il y en a aussi besoin pour l'aéronautique, l'armement, pour le numérique. En fait, ce n'est pas tenable. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui en parle très bien. Célia, elle est formidable par rapport à tout ça. Il y a aussi Aurore Stéphane de Systex. Il faut aller voir ses vidéos aussi, c'est fabuleux, elle explique ça très très bien. C'est pas ne plus extraire, c'est de toute façon ralentir. On ne peut pas faire autrement que d'appuyer sur le frein.
Trop bien. Et bah, peut-être, je sais pas, un petit mot sur la soirée de ce soir, un truc.
C'était formidable, plein de discussions, trop chouette, plein de rencontres et une piste de danse formidable. On a tourné, festoyé, c'était trop bien.
Yes, merci au Tabanar, l'orchestre.
Ouais. Salut. Merci à toi.
Mega Radio, benvenuto.
Capsule sonore, tournée montée, de la traversée des luttes de l'eau.
En roue libre, no border.
On balbutie un peu en radio.
Alors on espère pas trop vous bassiner.
Indulgence, joie et amitié.
L'image de la situation, c'est ballot. C'est pas très intéressant. C'est sur une commune qui s'appelle Ballot. Ah, on a raté la blague, merde. C'est Ballot. Ah, ça a l'air vachement bien. On vous a vu.
Il faut bien prendre à droite. Direction Clermont-Ferrand.
Vers où on va, ce serait top.
Parce qu'il y a trop de montagnes, plus assez de plaines, que vous ne voyez plus le commandant Pifta, c'est normal. Ça fait déjà 8 heures qu'on a quitté le Poitou. Voilà. On a laissé notre cher Poitou derrière nous, ça fait déjà 8 heures. Donc si vous ne sentez pas très bien, c'est normal.
J'ai un truc tout bizarre dans les oreilles, j'ai l'impression que je plais.
Et là, c'est au rond-point à gauche. Comme ça, notre camarade peut se soulager.
Même vous aviez peur.
La M10, Clermont-Ferrand. Première sortie à droite.
Attendu, on vous a vu.
On a franchi le rond-point. Qui a dit que Poitiers était moche? Direction Malintra, les deux. Il n'y a pas de body house, mais maintenant qu'on sait que le concept existe, il suffit de l'importer. Ça sert aussi à ça, les voyages à l'étranger. Réimporter, récupérer certaines idées pour ensuite les appliquer chez soi. C'est enchanté, la politique. On est dans la plaine de la Limagne, que nous reconnaissons très clairement grâce à une plante typique indigène de la région, le maïs.
Je comprends mieux pourquoi tu disais qu'on revenait à Poitiers.
Un peu trop d'arbres, je trouve. Ça me fait un peu bizarre.
Pressant. Pour les deux voitures qui nous ont quittés, la consigne, c'est de nous rejoindre au campement ou de nous rejoindre directement au lieu de rassemblement.
Je pense directement au point de rassemblement, pas au camping.
Une bonne relation musicale se passe sans les mots, nous dit.
Sérieusement, la direction. N'oubliez pas de tourner, de me suivre. C'est la deuxième à droite avec le convoi de l'eau maraîchin. Champs de maïs, vous voyez les champs de nénuphars. Le bâtiment industriel, des roseaux, de l'uniformité. Le monde du même, de l'identique. Semblable.
C'est horrible d'habiter là.
Ça donne pas très très envie.
Caserne de gendarmerie. Assécher le lac des Cygnes pour construire cette gendarmerie. Même avec ce genre de musique, finalement les gendarmes sont attendris et finissent par danser avec nous. Cette grande danse qu'on mène depuis plusieurs années avec eux. C'est beau, non? Si tu te réussis pas, camarade, il va falloir vraiment trouver une solution pour les Alpes. 13 décimes. La radio, si vous voulez, le relou. Si, je vous avais peut-être pas la top de la méga talk radio. Mais toujours est-il que, sur votre petite liste signal convoi de la traversée, vous avez dormi un lien vers un groupe signal où vous pouvez dropper vos petits podcasts, des plus amusants aux plus sérieusement. Et voilà, à tout de suite à Bioum. On tourne à gauche, nous actuellement à gauche, direction Mézel, Saint-Poney-les-Alliés. Doucement pour les petits. Pour les gentils, figure-toi. Rouler vite pour les méchants. C'est pour les personnes âgées, ça, Yuri.
Toujours Méga Radio, la question tout à l'heure, comment aider à Méga Radio, je pense que le truc de lancer, de faire un petit jingle, c'est cool. Mais il y a aussi et surtout, comment on rencontre les gens de BLM 103, est-ce qu'on leur pose des questions? Du coup, on a la même chose, c'est clair. Mais on a de la ressource. Et du coup, je pense qu'il y a moyen qu'on chope des gens et qu'on leur dise ah, vas-y, raconte-nous en 10 minutes où vous en êtes dans la lutte et tout. Et déjà, rien que ça, et ben, c'est précieux sur les ondes des potes.
C'est comment on prononce le nom du village dans lequel ils vont nous accueillir? Billon, Biome, 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 Biome.
Non, non, Omega Billon. Non, 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 Omega Billon. Torion.
Si le Loiret Poitevin est la Venise verte, Venise est sans doute le Poitou bleu.
You may find yourself living in a shotgun shack, and you may find yourself in another part of the world, and you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. as it ever was. Same 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 as it ever was. Yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground, into the blue again, into the silent water, under the rocks and stones, there is water underground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground, into the blue again, after the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Look where my hand was. Time isn't holding up. Time isn't after us. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was.
La traversée des luttes de l'eau continue sur la Méga Radio à J plus 1 chaque journée de la traversée. Assemblage de vocaux des copains de la traversée pour raconter cette première journée du Marais Poitevin à Tourbillon, à Billon dans le Puy-de-Dôme. De la radio amateur qui sonne bien sur la route nationale, des capsules sonores tournées montées, une heure de liaison avant quelques nouvelles de ce qui se passe à la 69. En attendant, une description audio d'une plage très festive. Un moment fanfare, parc, nage sur la plage de Serre-Panson.
Un éclair de génie, ça doit être pris sur le vif, ou on l'écoute.
Je dis je... Non mais oui, on... non mais c'est ça, c'est que quand tu traverses la ville et que tu vois tous ces gens, toute la faune urbaine dans la déchéance la plus totale, notamment à Paris qui est vraiment une sorte de concentré de cette faune, et que tu vois tous ces mecs ivres qui vont pisser, enfin qui vont ouais, pisser le long des murs. Et du coup, t'as tout ce chevelu qui commence à apparaître, tous ces petites rigoles qui se forment, qui viennent dessiner des petits bassins versants, incomparables évidemment avec le bassin et la vallée de l'Argentière, mais vraiment quand même ça met à jour toute l'hydrologie urbaine, quoi. Enfin, une forme d'hydrologie urbaine, et ça réenchante d'une certaine manière la ville.
C'est sensibilisation, mais c'est peut-être pas pareil. Mais par
Radio, benvenuto
aux capsules sonores tournée montée à arrache de la traversée des luttes de l'eau.
En roue libre, no border.
On balbutie un peu en radio.
Alors on espère pas trop vous bassiner.
Indulgence, joie et amitié.
Mega Radio, benvenuto
aux capsules sonores tournée montée à arrache de la traversée des luttes de l'eau.
En roue libre, no border.
On balbutie un peu en radio.
Alors on espère pas trop vous bassiner.
Indulgence, joie et amitié.
Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions. Et mes chewing-gums, blackjack et surtout, ce pressentiment. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades.
La traversée des luttes de l'eau du 2 septembre au 8 septembre 2024. À l'initiative du collectif Bassino Merci et dans le cadre de la saison 7 des Soulevements de la Terre, une délégation a pris la route de la Venise verte du Marais Poitevin, où se déroulera le camp climat de Venise.
C'est le jingle de la meilleure radio de la traversée de l'eau.
Attends, on l'a pas fait.
Si va la vie d'ici, la vie est là d'ici.
Cette traversée des luttes pour l'eau, qui fait écho à la caravane zapatiste pour l'eau et pour la vie de 2022, a pour objectif d'alerter sur les enjeux d'accaparement et de pollution des eaux, de renforcer nos liens entre résistance populaire face au durcissement des violences d'État et de construire un mouvement de défense de l'eau par-delà les frontières nationales. Mardi 3 septembre, de Limagne à Serpenson. Pour la deuxième journée de la traversée, la délégation se dirige vers Grenoble, où elle est accueillie le midi par le collectif Stop Micro, à l'université autogérée, une base d'organisation politique en plein cœur du campus universitaire de Grenoble. Après un accueil chaleureux et une pièce de théâtre pleine d'humour sur les enjeux de la technologie dans la transition écologique, les représentants de Stop Micro ont pu présenter leur lutte contre l'extension programmée des usines de puces électroniques ST Micro et Soytech sur des passerelles agricoles. L'usine de ST Micro, qui est parmi les plus gros pollueurs du département, utilise l'eau potable de l'Isère. Elle consomme à elle seule l'équivalent de ce que consomment tous les habitantes et habitants de la ville de Grolum, et rejette ensuite l'eau souillée au milieu chargé de PFAS et de métaux lourds. Du marais aux montagnes alpines, l'accaparement de l'eau par les géants industriels pose les mêmes enjeux, ceux de la question de la priorisation des usages et de la maladaptation au changement climatique. Vous entendrez tout à l'heure le collectif Stop Micro détaillant les intérêts des secteurs soi-disant verts de ces entreprises à gourdes connectées aux services militaires et drones et autres armements industriels.
Powerful technology megatrends are changing the face of our world. 5G, electrification, and artificial intelligence promise to revolutionize our daily lives and transform entire industries such as automotive, retail, energy, mobility, health, and education. None of this would be possible without semiconductors. The chips and the cutting-edge substrates they are built on are powering this transformation. At Soitec, we are enabling this revolution and accelerating the transition. We design and manufacture innovative semiconductor materials.
Our smart cut technology combines different layers of semiconductor materials at an atomic scale, unlocking unique properties tailored to a wide range of applications. Our engineered substrates bring critical advances in device intelligence.
With this critical positioning comes a clear mission and responsibility to make our products the cornerstone of a more sustainable future. With a shared passion for innovation, our creative talents and engineers are ready to rise to the challenge.
Eh ben, on est sur le campus de la ville de Grenoble, et plus précisément à l'université autogérée. Donc c'est un lieu qui propose des cours autogérés, et aussi il y a une cantine collective tous les lundis. On est le collectif Stop Micro, et on est une lutte qui s'est montée initialement pour protester contre les extensions de deux usines de microélectronique, donc qui sont ST Microélectronics et Soitec, qui se situent à une vingtaine de kilomètres de Grenoble. C'était principalement sur la question de l'eau que le mouvement s'est fédéré au début, parce que c'est des usines qui consomment énormément d'eau. Ce qui est produit dans les usines, donc c'est travaille beaucoup avec les industries des automobiles, notamment les voitures électriques, tout ce qui est Internet des objets, donc objets connectés, notamment on a pu trouver des gourdes connectées, connectées à une appli qui dit qu'en boire, ou alors des pommeaux de douche connectés qui permettent de faire des économies d'eau. Et en fait, ils se présentent comme travaillant à la transition écologique, aussi dans les... Pour optimiser la consommation de ces objets, aussi dans les énergies renouvelables. Et en fait, ce qu'on essaye de montrer, c'est que vraiment ces industries-là, elles se sont saisies de ce concept de transition écologique pour ouvrir un nouveau marché de l'énergie, de la consommation, et en fait, quand on a notre smartphone, par exemple, dans les mains, il est tout beau, tout lisse, et on ne se rend pas du tout compte de l'impact que ça a. Mais tous ces objets, ils ont un impact énorme, comme on le disait tout à l'heure. En fait, il y a un besoin en métaux qui est énorme, auquel la planète ne peut pas du tout subvenir, et qui se fait sur le dos des populations dans des pays, enfin, avec des pratiques vraiment coloniales. Et on essaye de montrer que la transition écologique, elle ne peut pas passer par le numérique, et encore moins par l'industrie de la microélectronique.
Il y a deux dimensions, du coup il y a de l'eau, parce que en fait cette eau là qui est accaparée puis polluée, rejetée polluée dans l'Isère, elle est utilisée pour fabriquer des puces électroniques, et donc dans notre mot d'ordre on indique que, on y préfère de l'eau qui est quelque chose de vital plutôt que des puces, et à travers ce mot d'ordre on attaque aussi un petit peu tout le mythe de l'innovation, de la croissance, de la technologie qui va améliorer nos vies, etc. On attaque surtout le monde connecté, la numérisation de nos vies, qui est vendue par les pouvoirs publics comme les entreprises comme quelque chose de super positif et un grand progrès. Et nous, on y voit non seulement un désastre écologique, mais en plus une dégradation de nos conditions d'existence.
Le processus de fabrication des puces, c'est qu'elles vont être gravées à plusieurs reprises avec des produits chimiques. Et entre chaque phase de gravage avec un produit chimique différent, il faut rincer ces puces avec de l'eau qui doit être ultra pure, d'où l'implantation des usines à Grenoble, parce qu'en fait c'est de l'eau qui provient directement des glaciers des Alpes, parce qu'elles prennent, elles se fournissent sur le réseau d'eau potable de la ville de Grenoble. Et c'est aussi pour ça que l'eau ensuite elle ressort polluée, parce qu'à chaque fois ils rincent un produit chimique différent et l'eau elle est ensuite rejetée dans l'Isère.
Un des centres névralgiques de cet écosystème, c'est le commissariat à l'énergie atomique, donc un laboratoire public. Donc en fait, le slogan de ce laboratoire est assez représentatif de l'esprit et du modèle grenoblois, donc c'est de la recherche à l'industrie. En fait, dès le départ, donc, quand il s'est implanté en 56, le but c'est de développer des technologies pour qu'ensuite des start-up puissent les reprendre et que ça favorise l'économie de la région, etc. Donc, et par exemple, ST Microelectronics et Soitec sont deux entreprises qui sont issues de fusion et qui à l'origine étaient des start-up issues du CEA et qui ont pour particularité aussi des technologies à la base pensées pour le militaire. Par exemple, en fait, toutes deux, c'est surtout pour l'armement nucléaire et aussi l'énergie nucléaire que les technologies ont été pensées et développées au CEA. Et ensuite, elles ont essaimé, comme ils le disent, à travers ces startups et des entreprises. Et en fait, c'est un petit peu représentatif de ce modèle, dans le sens où il y a une collaboration assez étroite entre des industries, surtout en microélectronique, et des universités. Donc là, on est sur le campus universitaire, il y a un laboratoire derrière nous d'informatique qui travaille en partenariat avec plein d'entreprises, qu'elles soient d'armement ou pas. Et donc voilà, c'est un peu ce triptyque qu'on met souvent au jour, c'est le militaire, l'université, et avec surtout son aspect recherche, et les industries.
Il y a un concept qu'on dit qu'une technologie, elle est duale, dans le sens où elle est développée par l'armée, mais que pour la rentabiliser, parce que pour son développement, la recherche, tout ça, ça nécessite énormément de financement, et pour la rentabiliser, en fait, on va la vendre ensuite comme un produit commercial, comme par exemple les drones, en fait, qui sont utilisés par l'armée, et notamment, on a retrouvé une puce qui vient de ST dans un drone qui avait été utilisé par l'armée russe en Ukraine, et on sait que l'écosystème grenoblois et ST Microélectronique fait notamment beaucoup de liens avec Israël, donc on retrouve probablement des puces de ST dans des drones ou de l'armement high-tech en Israël.
Une grosse partie de notre activité, c'est sur justement ces enquêtes, l'enquête critique, pour à la fois en savoir plus sur l'aspect de la pollution, de l'accaparement, des terres aussi, des produits chimiques, quels sont les impacts sur l'écosystème, etc. Et à la fois pour connaître les... tout ce à quoi sont destinés ces produits technologiques. Et c'est là qu'on a beaucoup découvert des choses les plus choquantes du coup sur l'armement qui est aujourd'hui utilisé pour tuer. Et surtout un peu la vie connectée, les trucs absurdes, les gourdes connectées, etc. Et donc en fait, on a établi beaucoup d'enquêtes pour établir ces faits. Et ensuite, une grande partie de nos activités, c'est de les rédiger dans des tracts, dans des brochures, qu'on distribue sur les marchés pour s'adresser vraiment à tout le monde. On essaie de pas avoir un discours qui soit illisible ou trop intellectuel, vraiment de s'adresser à toute personne qui pourrait se sentir concernée, des gens proches des usines, des gens inquiets pour des questions internationales, enfin n'importe qui quoi, et on les diffuse à travers des tractages, des conférences. On a fait un petit peu un tour de France en faisant des conférences publiques dans plusieurs villes.
Et du coup, on a fait aussi des tractages à destination des employés des usines sur ces questions de l'armement notamment. Et ça a débouché, il y a eu un appel de la CGT ST Microélectronique avec 300 signataires pour demander à la direction de cesser ses liens avec Israël.
Et une grande partie de les infos, on les prend sur les sites des entreprises, sur les sites des conseils régionaux. Enfin, c'est un petit peu de fouiller sur Internet, quoi. On essaie de prendre les chiffres officiels qui sont déjà assez choquants et assez parlants d'eux-mêmes. Les entreprises, elles consomment autant d'eau potable que la ville de Grenoble. Et ça, c'est leurs chiffres à eux. On essaie de reprendre les leurs. Pareil pour ce qui est des polluants, des usages, etc. Mais il y a certains endroits où c'est plus compliqué, notamment au niveau des destinées de ces produits. Parce que... enfin, c'est pas des choses qui sont très publicitées par les entreprises, elles sont pas forcément obligées de le faire, donc on doit fouiller, aller demander à des gens qui y travaillent, pour savoir qu'effectivement, oui, ça, la majorité des puces ont été utilisées pour faire des robots industriels, pour faire de la reconnaissance faciale à ce moment-là, enfin, c'est, voilà, c'est des... On doit creuser un petit peu en demandant aussi à pas mal de monde.
IFA, justement, c'est une enquête qu'on a commencé très récemment, puisque c'est très récemment que l'Agence régionale de santé elle a obligé toutes les entreprises à publier leurs émissions de PFAS. Et c'est là où on s'est rendu compte que ST Microélectronique, on parle plus de ST Microélectronique parce qu'en fait, elle est beaucoup plus grosse que Soitec. Mais après, en proportion, ça reste à peu près la même chose, mais Soitec est quand même beaucoup plus petit. Et que du coup, ST Microélectronique se retrouve parmi les entreprises les plus émettrices de PFAS d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est quand même... assez forte sur les PFAS.
Alors juste, c'est quoi les PFAS ? Excuse-moi, parce que je... Oui.
C'est des polluants éternels. Donc le gros scandale, c'était les poêles Tefal, notamment. Donc qui étaient on utilisait... c'est des particules de fluor, en fait. Il y en a plein de différentes, mais... Et du coup, ça cause des cancers, enfin plein de maladies. Notamment, le cas emblématique, c'est Arkema et Daikin à Pierre-Bénite, à Lyon, où les habitants et habitantes autour ont des taux de PFAS et vraiment très très élevés. Et du coup, c'est utilisé par ces industries parce que vu tous les produits chimiques qu'elles utilisent, elles sont obligées de protéger leurs tuyaux avec justement ces PFAS qui sont en fait ça permet de protéger les tuyaux. Voilà.
Il y a des composants comme l'azote et le phosphore qui sont rejetés dans des quantités assez astronomiques comparables à ce qui se passe en Bretagne et qui a déclenché la prolifération des algues vertes. Il y a aussi d'autres polluants très persistants comme le cuivre, l'aluminium, etc. Et en fait, une myriade d'autres dont on ne sait pas encore exactement quels sont leurs effets sur l'Isère, mais aussi qu'est-ce que ça fait un petit peu ce cocktail de différents éléments qui vont rester, peut-être s'accumuler, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'études pour savoir à quel point ça va impacter la rivière, les écosystèmes, mais on voit que les pouvoirs publics sont toujours trop dépendants et trop soutiens de ces industries pour vraiment leur mettre des freins. Et en fait, depuis le début de leurs agrandissements progressifs, systématiquement, à chaque fois que les usines font des demandes pour augmenter leur seuil d'émission de certains polluants, en fait, la préfecture, elle les accompagne dessus, quoi. Elle va faire une étude pour prouver que ça sera bon de mettre autant.
Il faut savoir que, en fait, tous les chiffres, c'est les usines elles-mêmes qui les produisent. Et on a une source interne qui nous a fait savoir que pour les émissions dans l'air, en fait, il y a des détecteurs à la sortie des cheminées qui, lorsque le taux de polluants émis dépasse le taux réglementaire, ça se met à sonner, tout ça, il faut trouver une solution. Et du coup, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de diluer en fait en insufflant encore plus d'air pour que les taux, parce que c'est des taux par volume, ne dépassent pas les taux réglementaires. Et du coup, on peut se douter qu'ils font pareil avec l'eau, en juste rajoutant plus d'eau pour pouvoir diluer les polluants, quoi.
En tout cas, sur les PFAS, c'est clairement les industries de la chimie qui sont les plus grosses émettrices. En Isère, c'est l'usine Vancorex qui est quasiment au même niveau que Arkema Pierre-Bénite. Donc ST Microélectronique, c'est bien en dessous, il faut le dire. Mais ça reste trop dans tous les cas, dans le sens où c'est éternel, on ne sait pas où ça se retrouve après, etc. La Vancorex rejette dans le Drac et ST Microélectronique dans l'Isère, qui se rejoignent juste après Grenoble pour rejoindre le Rhône.
Concernant la plateforme chimique donc, qui est au sud de Grenoble, justement, les prélèvements qui ont été faits sur la nappe phréatique qui est juste en dessous de cette plateforme, c'est qu'elle est devenue complètement impropre à toute utilisation, mais c'est même pas qu'elle est plus potable, c'est juste qu'elle est complètement polluée. Et en fait, il y a un phénomène de la nappe d'eau potable qui est juste à côté. Et il y a un risque de reversement de la nappe polluée dans la nappe d'eau potable, ce qui fait que les usines sont obligées par les pouvoirs publics à constamment pomper cette nappe pour pas que le niveau dépasse et crée un reversement et qui enverrait toute l'eau polluée dans la nappe d'eau potable. Donc on est un peu en danger.
Et du coup, effectivement, ces risques de pollution permanents, parce qu'il y a aussi les usines qui sont classé Céveso seuil haut, donc en cas d'accident, en cas d'incendie, c'est surtout à cause des produits chimiques qui risqueraient de causer une catastrophe, quoi. Donc il y a un petit peu cet aspect de danger permanent, de pollution diffuse, il faut reconnaître que ces impacts sont un petit peu minimes par rapport aux impacts de la chaîne de production du numérique plus globale. C'est important de rappeler, souvent on a l'argument que c'est mieux d'avoir ces usines ici plutôt qu'ailleurs parce qu'il y a des normes, etc. Mais en fait, construire des usines ici ne va pas faire qu'il ne va pas y avoir tout aussi d'autres usines qui vont apparaître dans tous les autres pays du monde. Parce que, par exemple, tous les métaux rares dont on a besoin pour fabriquer du numérique, tout le silicium qui est utilisé par ST et Soitec, et tous les produits chimiques, en fait, c'est une chaîne de production qui est mondiale et qui ravage des villages entiers en Chine, en Afrique, etc. Et de toute façon, en fait, une fois que les circuits électroniques sont gravés ici, ils repartent directement en Asie afin d'être assemblés dans des villes-usines, en Chine surtout. En fait, c'est juste un petit maillon qui a le seul avantage d'avoir beaucoup de valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il est en France. Et le reste, c'est aussi un carnage dans tous les autres pays du monde. Et ça finit dans des décharges à ciel ouvert dans des pays d'Afrique comme le Ghana.
À travers cette lutte de taper local, mais vraiment de penser global, parce que en fait, c'est vraiment des géants multinationaux auxquels on s'attaque. Et c'est aussi pour ça que ça fait vraiment sens de s'inscrire dans cette traversée des luttes pour l'eau. C'est parce que c'est faire du lien entre toutes les luttes autour de l'eau et surtout dépasser les frontières. Notamment, le lien avec l'Italie, il est super intéressant parce qu'en fait, ST Micro, c'est une entreprise franco-italienne. Et il y a une extension qui est en cours à Catane de la même ampleur que celle-là de Grenoble. En fait, on a besoin vraiment de tisser ce réseau-là pour pouvoir lutter efficacement contre ces industries.
Chaque année, on essaie d'avoir une action qui soit un petit peu le point d'orgue de la mobilisation. Donc en 2023, la première année du collectif, on a fait une manif devant les industries, donc à Crolles, donc à 20 km de Grenoble.